être avec vous, avec Agnès sur scène. Bonjour Agnès.
Bonjour, bonjour.
Marina Rodman, bonjour Marina.
Oui, bonjour Marina.
Albert Algout, techniquement connecté. Bonjour Albert.
Oui, oui, oui. Complètement connecté.
Bah, tu dis oui, dis bonjour d'ailleurs au lieu de dire oui, oui. Daniel Morin est là.
Oh, c'est très bonjour. Mal parti cette journée.
Bonjour Daniel.
Salut.
Tanguy Pastoureau sera là tout à l'heure et notre invité est bonjour. Annie Dupéré.
J'adore.
J'adore, oui. Et Annie va venir pousser un coup de gueule. Elle a déjà commencé d'ailleurs ce coup de gueule puisque elle a écrit une lettre avec plusieurs artistes, plusieurs personnalités importantes dans notre société que l'on aime. À part Annie Dupéré, il y a également François Cluzet, Jean-Pierre Jeunet, Eddy Mitchell qui ont envoyé une lettre au président de la République pour s'occuper du sort réservé aux animaux dans notre société. On va en parler avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, je vous sens, je sais pas, en forme, Daniel, par rapport à d'habitude. Non, je me trompe, non, je sais pas, je vous vois musclé, beau.
Mais pas du tout, Nagui, vous ne vous trompez pas. Comme disent les jeunes, vous avez mis dans le mille. Non, je suis au top. Rien ne pourra altérer ce sentiment de plénitude qui m'habite aujourd'hui, rien. Et vous savez pourquoi, petit bonhomme au regard trouble? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est la journée mondiale du bien-être. Journée de l'épanouissement physique et psychologique. Alors, bien sûr, on n'est pas tous égaux à ce chapitre. D'un côté, il y a ceux qui ont tout, comme Albert Algout, qui pète la forme du haut de son insolente jeunesse et qui kiffe cette journée du bien-être de façon goulue et obscène. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont coussi, coussa, mais qui, pour marquer le coup, prennent sur eux. Oui, monsieur, à l'occasion de la journée mondiale du bien-être, on ne chouine pas. Eh ouais, mon petit bonhomme, aujourd'hui, on fait un effort en positive. Tenez, ce matin, j'étais un peu patraque. J'avais de la fièvre, un petit 39,9. J'avais du pus qui coulait des yeux. Trois de mes orteils commençaient à se nécroser. Quand je me suis étiré, j'ai clairement entendu une vertèbre se fendre. Pendant que je mangeais mes céréales, j'ai perdu 5 dents. Et quand j'ai été faire pipi, j'ai remarqué que non seulement j'avais du sang dans les urines, mais qu'un de mes testicules avait disparu. Tout ça pour dire, j'étais pas au top. Mais j'ai pris sur moi. Je me suis dit, Daniel, c'est pas le jour de couiner comme une dinde. Fais pas ton Agui qui pleure tous les jours quand il pense au physique de rêve de Michel Simès, l'animateur préféré des Français. Non, c'est la journée du bien-être. Tiens-toi droit et montre l'exemple. Voilà mon petit père, c'est comme ça. Pour la journée du bien-être, on va tous bien. Et si ça va pas, on fait semblant. Voilà.
Très bien. Merci Daniel. D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, est engagé sur une association de défense des animaux ou pas? Je vais d'abord demander aux filles, parce que il y a des chatons qui circulent à la maison, me semble-t-il, et des animaux. Marina Rollman.
Oui, moi j'ai un chien et il est vraiment en plein bien-être. Je me concentre mon action sur un chien en particulier, mais lui va très 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 bien. Voilà.
D'accord. Ça veut dire que tu t'occupes que de ton chien et tu veux pas défendre tous les autres animaux. D'accord.
Non, je les aime bien les autres aussi, mais de loin.
D'accord. Agnès, est-ce que tu fais partie d'une
association? Moi, je suis belle-mère d'un chat. Non, je suis belle-mère d'un chat, les gars, et c'est déjà très compliqué comme ça. Donc voilà.
Oui, mais quand t'apprends que ces animaux sont tués, abandonnés, empoisonnés, jetés en pâture ou qu'il y a des chiots qui sont jetés sur le bord de la route, ça doit t'énerver?
Bah oui.
Mais tu fais rien. Mais tu ne fais rien.
Ouais, voilà. Mais ne me culpabilise pas. Ma rencontre avec Annie Dupéré dans un quart d'heure va peut-être changer la donne dans ma vie, tu vois.
Je le souhaite, je le souhaite. Albert Algout, ton rapport aux bêtes?
Moi, j'ai un mini zoo chez moi, deux chats qui ont été récupérés à la SPA ou dans des associations.
Ouais.
J'avais deux chiens, il y en a un qui vient de mourir, hélas. Et quand c'est des chiens que j'avais recueillis, dont un qui était maltraité, moi, je peux pas dire comment je me le suis procuré. J'invite les gens, quand ils constatent que des chiens sont maltraités, à voler ces chiens, et c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là, plutôt que de les laisser maltraiter.
Ouais, absolument.
Et puis j'ai un perroquet et je suis membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Voilà.
D'accord. La Ligue de d'Alain Bougrain-Dubourg, c'est ça?
Alain Bougrain-Dubourg, ouais. Qui fait un boulot formidable en France pour les oiseaux.
J'ai posé la question à tout le monde, pas à Daniel, parce que j'ai pas envie d'entendre des horreurs, évidemment, mais
Détrompez-vous, Nagui, hein. Moi, ça fait 12 ans que je m'occupe d'Albert Algout. Et ça fait 6 ans que je fais tout pour pas qu'on le pique. Alors, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre.
Alors, vous me voyez venir pour le blind test. Nous allons avoir des chansons autour des animaux. Et que ce soit d'ailleurs des chansons ou des groupes qui contiennent un nom d'animal. Okay. Très, 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 très. Mais tellement. C'est gênant, tellement c'est facile.
Marina.
Oui, Marina.
Mais non, enfin c'est la BO du roi Lion.
Exactement. T'es gênée ?
Elle en revient pas. Non, j'avais peur de dire une énorme bêtise.
J'ai cru que c'était un animal qui s'appelait Marina.
Oui, voilà.
Beyoncé étant la voix féminine que vous avez entendue. Alors là, ça va peut-être rassurer un peu plus Albert et Daniel.
Daniel.
Alors, Daniel, non, c'était pas ça pour Albert. Et tu dis quoi, Daniel ?
Moi, j'ai
les chats sauvages.
Ouais, les chats sauvages.
Twist qui se prononce twist. Un peu comme Guise.
Twist à Saint-Tropez.
Twist.
Au bord de la mer, dit.
Ouais, c'est ça, tu dis twist et Guillermo Guise de la même manière.
Queen.
Alors,
c'est vrai, il dit Queen.
Il dit Queen.
Ah oui, Lorraine.
Levez la main, donnez-moi votre prénom si vous reconnaissez.
Ouais, Daniel.
Je t'écoute, Daniel.
Les Stray Cats.
J'adore. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça.
Ouais.
Alors, peut-être plus facile cette fois-ci pour les filles.
Daniel.
Vas-y, Daniel.
Bobo.
Oui, le chat.
Moi vouloir être le chat. Je t'aimerai voir. Moi vouloir être le chat.
Alors là, c'est peut-être plus difficile, mais bonjour enfant que tu es. Je rappelle que nous sommes chacun chez nous, nous sommes chacun confinés.
Voilà. Donc Maya, forcément, pas tomber, s'il vous plaît.
Il y a de la vie. C'est la magie de la distanciation sociale de la bande originale. Ça rime. Écoutez, reconnaissez où se trouve l'animal là-dedans.
Marina. Ah non.
Ouais, Marina.
The Animals. Ouais.
C'est... Ouais, joli. The Animals. C'est dans quel Tarantino ça? Baby, sometimes I'm so carefree. Alors plus dur. Déjà, est-ce que vous connaissez ce riff de guitare? Il y a un animal, je vais vous aider, c'est pas dans le type de la chanson, c'est dans le nom du groupe.
Daniel ?
Ouais, Daniel ?
Ah. Eagles ?
Ah oui !
C'était quoi ?
Eagles. La chanson la plus connue des Eagles, évidemment Hotel California, mais c'était sur le même album qu'Hotel California, ce titre Life in the Fast Lane. Pour l'instant, c'est Daniel qui est en tête avec 4 titres trouvés. Marina 2, Agnès est en ligne et soupire, et Albert ne m'aide même pas à compter des points. Tu pourrais au moins m'aider à compter des points.
Ah non, j'ai dit Animals le premier, avant Marina tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas entendu. Donc j'ai un point.
Ah, je suis désolé. Ok. Ouais. Tu sais quoi ? Je te l'accorde. Voilà.
D'accord.
Tout
c'est gentil.
Va se jouer avec cette dernière chanson qui peut rapporter 6 points.
20 points.
6 points. L'animal est dans le titre.
à la ratonne.
Oui, Daniel.
Oui, Daniel.
Toucher la chatte à la voisine.
Toi qui voulais.
Joli.
Toi qui voulais. Ah ouais. Toi qui voulais. Toucher. Toucher la chatte à la voisine.
C'est là-dessus que j'ai emmené
le service
bientôt.
Public. Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais quoi?
Mais le service public, mais qu'est-ce qui nous arrive?
Oh non,
enfin, là,
mais enfin, je suis extrêmement gênée.
T'as le droit d'aller caresser l'animal de compagnie de ta voisine. Écoute, je vois pas où est le
Évidemment.
Problème.
Bien sûr. Oh là là, on salue
toi qui voulais,
au passage.
Toi qui voulais, toi qui voulais, toi qui voulais, toi qui voulais. Toi qui voulais, toucher la chatte à la voisine.
Non, ta, ta, ta.
Bon, je suis un peu gêné, je le reconnais, mais je savais plus, comment vous piéger.
Oh non.
Je savais plus comment vous piéger. Et tu vois, c'est là où on voit que Leïla nous manque, parce que Leïla, au moment où on est en train de diffuser cette horreur, me dit, tu aurais pu passer la musique de Beethoven, le chien. Tu...
Bon. Juste, elle nous dit aussi, vous êtes énorme.
Elle est, voilà, elle est en forme en tout cas et on l'embrasse. À jamais c'est son générique maintenant. À jamais.
Mais quand est-ce qu'on va avoir un blind test Eurodance 90s comme ça?
Bon, ah tu veux? Ok. Ouais. Il faut que ça tombe un jour où tu es là en plus. C'est-à-dire que tu me mets plusieurs.
J'ai des proxys. Il y a des gens que je serais fière de voir gagner là-dedans.
J'essaye de trouver, comme vous aurez pu le remarquer, toujours un thème lié. Bien sûr. À notre invité aujourd'hui, c'est la défense de la cause animale dont nous parlerons dans quelques instants avec Annie Dupéré dans la bande originale.
France Inter, Nagui, la bande originale.
L'excellent Mathieu Chédid, M, avec cette chanson dont tous les droits vont au secours populaire. Ça s'appelle Croix au printemps.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements. Comme on croit au printemps, croit en la vie, comme on
Au printemps, M. Mathieu Chédid, avec ce titre dont tous les bénéfices sont reversés au secours populaire, et je voulais juste faire un petit clin d'œil. Alors évidemment, c'est, vous avez appelé ça de l'autopromotion, mais ce soir, je partagerai une émission avec Stéphane Bern sur France 2. Tout le monde joue avec la France. On va découvrir des coins de France et vous poser des questions en direct sur la France, mais surtout, il y aura une surprise que M nous a préparée. Évidemment, comme c'est une surprise, je n'en dis pas plus, mais ça, c'est une surprise qui va montrer et l'autodérision et le talent de Mathieu Chédid. J'ai dit s'il fallait encore douter de sa gentillesse et de son talent. Deux qualificatifs qui vont extrêmement bien également à Marina Rollman.
Oh là là.
Bisous. Des bisous.
Bonjour les amis. Aujourd'hui, au milieu de la mobilisation contre les violences policières et des débats que ça engendre, j'aimerais qu'on dézoome un peu tous ensemble. Et parce que j'aime bien la déconne et je sais que vous aussi, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur l'héritage philosophique des Lumières et de l'universalisme. Voilà, on va se poiler, putain. Parce que je trouve saisissant. Chez les détracteurs des gens mobilisés sur ces questions de racisme, c'est qu'il y a une référence implicite constante à l'histoire des idées en France. Et la conviction que le modèle initié il y a plusieurs siècles est juste, bon et facteur de progrès pour tout le monde, si seulement on voulait bien mettre un peu de bonne volonté pour s'y plier. Et pour ces gens-là, par exemple, l'idée même de parler d'une expérience du monde par les personnes racisées qui serait différente de celle des Blancs, c'est déjà être raciste. Eux, ils sont tenants du « c'est en ne voyant pas les couleurs qu'on met fin au racisme ». Ah non, moi vraiment, je vois pas les couleurs, quoi. Sérieusement? Je ne vois pas les couleurs. Mais tu sais que l'étape d'après, c'est je ne vois pas les formes, je ne vois pas la lumière, ça s'appelle un glaucome, hein, c'est dégénératif, il y a des gouttes pour ça, faut faire gaffe quand même. Je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas les couleurs. Je devine, il y a une bonne intention derrière, mais on sait que ce n'est pas vrai. C'est comme de dire je ne vois pas ce qui est beau, je ne vois pas les gens attirants. Voilà. Moi, pour draguer, je vais en boîte de nuit, les yeux fermés, avec une pancarte chaude du cul autour du cou. Je marche comme ça, les mains en avant, et le premier qui me sort la main, on rentre ensemble. Voilà.
Non.
Ce qui m'embête chez les amoureux de l'histoire de France, fiers de ce qui a fondé la République, et qui en même temps sont très figés sur leur position, c'est que c'est contradictoire. Ce qui est génial dans les Lumières, c'était la remise en question du modèle existant. Au moment où ces philosophes émergent, on peut dire qu'ils avaient des idées disruptives. Et ben là, il y a des gens qui te disent « Nous aussi, on a des nouvelles idées ». Et alors là, tout à coup, les gardiens de l'histoire de France, ils sont là « Là, 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 j'entends rien !» Alors qu'on devrait être fiers. La capacité révolutionnaire de la France, c'est dans son ADN. C'est extrêmement étonnant aujourd'hui de voir des gens qui défendent qu'être français à ce moment précis de l'histoire, c'est être figé. C'est pas du tout le propre de la France d'avoir une pensée muséifiée qu'on vient visiter avec déférence. Oh, regardez ces coutumes millénaires. Ça, c'est le Japon. La France, on vient pas pour ça. La France, le contrat de base, c'est que quand on trouve un truc injuste, on se fout sur la tronche jusqu'à ce que ça change. En plus, c'est ok, ça veut pas dire que tout le reste va se péter la gueule. Au contraire, être souple face aux pressions de l'époque, c'est une manière de la sauver, cette France. Le roseau et le chêne. Hein, y a pas plus français que la fontaine, putain. En plus, on le sait, si les nobles avaient évolué avec leur temps, ils auraient peut-être pu continuer à porter des écharpes. Bon, tout ça pour dire. Ce que je veux dire, c'est que une philosophie, c'est une technologie de la pensée. Et que là, à ne pas vouloir changer, on prend une technique ancienne pour un monde actuel. Comme si au moment des Lumières, on avait dit, pourquoi vous voulez changer? On est la civilisation qui vous a donné Lascaux, d'accord? Alors il faut rester avec l'esprit de Lascaux, de la grotte. S'il y a un problème, il faut peindre des grands animaux sur des murs, d'accord? C'est tout. Oui, non, mais en fait, nous, on pensait changer. C'est l'identité même de ce pays que de peindre des grands animaux sur des murs. Oui, non, mais en fait, nous, on se posait des questions sur la répartition des terres, les taxations. Des grands animaux sur les murs sont les valeurs de la République. En plus, là, il y a peut-être enfin des choses qui vont changer, mais c'est des choses qui sont demandées depuis des années, il aura fallu que la moitié du monde occidental manifeste pour qu'enfin on écoute. Et ça, ça augure une réconciliation un peu merdique. Il faut que des milliers de gens marchent pour qu'on soit là. Peut-être alors. C'est du terrain pour du ressentiment de devoir en arriver à des extrêmes pour qu'on tende l'oreille. C'est comme ta coloc qui te demande gentiment pendant 2 ans de sortir la poubelle et tu le fais pas quand elle est gentille. Bon bah ça s'accumule les frustrations. Et un jour, au bout de 2 ans, elle finit debout sur ton lit, le visage recouvert de yaourt, en éventrant la caisse du chat et en criant comme Mel Gibson dans Braveheart « Notre liberté !» Fallait l'écouter avant Caroline, hein, ça c'est sûr. Bref, tout ça pour dire faut peut-être repenser nos modes de pensée pour qu'ils englobent d'autres expériences que celles des gens comme moi, et qu'on se mette à les écouter sans qu'il y ait besoin pour apporter du crédit à leur récit que des milliers de gens descendent dans la rue. Parce que c'est bien l'héritage des Lumières, mais c'est encore mieux que ce soit pas tout le temps les mêmes qui nous éclairent.
Merci, bravo Marina. Héritage des Lumières.
Toi qui voulais,
Non. Voici Annie Dupéré qui est notre invitée. Bonjour Annie, merci d'être avec nous. Comment allez-vous?
La journée du bien-être, vous m'avez déjà beaucoup fait rire.
Bon, c'est déjà une bonne chose.
Vous êtes bien la seule.
Annie Dupéré, vous avez signé une lettre aux côtés de 46 autres personnalités. Oui. Je le disais, Eddy Mitchell, François Cluzet, Jean-Pierre Jeunet,
Jean-Marc Morandini,
Ariel Dombal. J'ai pas tous les noms, mais en tout cas, il y a du monde.
Je suis de la race des signeurs, comme disait Montand.
Ah. En tout cas, nous aurions aimé nous aussi signer, et d'ailleurs nous la signons puisque on veut vous en faire parler.
Et tu je l'as trouve signé, toi, déjà.
Je trouve votre démarche importante, et il faut en parler de cette démarche, écrire au président de la République et pas que. D'ailleurs, il y a aussi le ministre de l'Économie et des Finances, il y a également le ministre de l'Agriculture, exactement, et le ministre de l'Action et des Comptes Publics, pour leur dire il faut faire quelque chose pour les associations, parce que elles n'ont pas été aidées dans cette période particulière de confinement.
C'est-à-dire les associations, surtout d'aide, les refuges pour
protection,
animaux.
Protection, ouais.
Hein, la protection des animaux. Alors, effectivement, on connaît bien la SPA, qui est quand même officiellement aidée par la France. Elle a, je crois, 68 millions par an pour s'occuper des animaux qu'on recueille, qui sont abandonnés et de ça. Mais la SPA, en fait, n'a, je crois, en France, que 55 refuges.
Exact.
Alors qu'il y a 3200 associations. Voilà, j'ai révisé mes chiffres. 3200 associations qui recueillent des animaux ou abandonnés ou blessés ou en maltraitance, qui sont 775 refuges. Donc, en plus, c'est une masse salariale extraordinaire, parce qu'il y a quand même 2400 emplois de ça, avec 15 millions de charges sociales qui sont payées à l'État. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est ces 15 millions-là, les rendre, en fait, pour les associations d'assistance à animaux. Voilà.
C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe.
Voilà. Il y a eu 19 millions pour les cirques et les zoos. Certes, on peut pas les laisser mourir de faim, les girafes et les lions qui sont dans les zoos et les cirques. Mais il n'y a rien eu pour les assistants, pour les associations de qui s'occupent de tous les animaux abandonnés en France.
Le paradoxe, c'est que elles sont endettées, elles sont au bord du désespoir part, avec d'abord un nombre croissant de Français qui les a sollicités de manière impressionnante pendant cette période. L'action est très importante sur le terrain. On l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure avec Albert Algout. Il y a aussi des comportements de ces mêmes Français, enfin d'autres Français, qui sont extrêmement violents. D'ailleurs, c'est à ne pas comprendre ce qui peut se passer par la tête de quelqu'un.
Je crains qu'on soit le record d'abandon, non ?
C'est fou, mais en tout cas, de violence ou de maltraitance, Albert.
Oui, c'est terrible. Et puis, alors, évidemment, les gens nous diront, oui, mais alors il y a autre chose, il y a les SDF, il y a des tas d'urgences dans le monde. Mais je crois qu'en fait, quel est le philosophe qui a dit qu'on reconnaît le degré d'une civilisation à la manière dont on traite les plus faibles ? Et les plus faibles,
Gandhi.
En fait, ce sont les animaux dans nos sociétés, effectivement.
Il y a à la fois Gandhi
et
Victor Hugo aussi, qui avait cette même réflexion dans l'idée même aussi de les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. C'est encore autre chose.
Un autre sujet, exactement.
Et on peut très bien comprendre que des personnes se délectent à manger et qu'ils se portent bien à manger du poisson, à manger de la viande. Il n'empêche que on n'est pas obligé d'abandonner des chiots, de torturer des chats ou de les abandonner dans la nature. Et toi, tu nous disais tout à l'heure, Albert, justement, que tu encourageais ceux qui savaient qu'un animal était maltraité à finalement aller le voler.
À le voler. Oui, j'ai tout entendu.
Bien sûr. Je connais des gens qui avaient eu recours à qui avaient demandé conseil à des associations diverses de protection des animaux. Et le conseil qu'on a donné à ces personnes, c'était carrément, lorsqu'on était confronté dans le voisinage proche à des maltraitances, mais caractérisées et terribles sur des animaux, carrément de les voler. Et donc, ces personnes ont suivi cet exemple. Je les connais très bien, ces personnes.
Annie Dupéré, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez de nos décideurs en leur adressant cette lettre?
Alors, il faudrait débloquer, mais ça doit être voté là, dans la semaine, je crois, avant la mi-juin, à la mi-juin. Parce que, effectivement, ça peut être demandé par notre ministre de l'Agriculture et tout ça, un 15 millions d'aides d'euros. Par rapport à tout ce qui a été débloqué en France dernièrement, c'est quand même pas grand-chose quelque part, vu qu'il y a quand même 2400 emplois officiels là-dedans. Il faudrait 15 millions d'euros qui doit être effectivement voté, et ça doit être voté ensuite, ça doit être proposé. Le ministère de l'Agriculture doit ajouter une ligne budgétaire, et ça doit être voté par les parlementaires mi-juin. Voilà.
Autrement dit, c'est-à-dire que l'idée de cette lettre, elle est autant d'aller vers la protection animale avec l'association Ethics for Animals et One Voice que de dire qu'il y a aussi une économie, tout un travail
Il y a, 2400 emplois officiels.
Oui, non, mais...
Voilà, c'est ça. C'est aussi ces employés-là. Voilà, c'est les animaux et c'est les humains aussi qu'il faut aider.
Exactement.
Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens ont des animaux à charge qu'il faut soigner, nourrir. On va plus pouvoir le faire. C'est effrayant. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces 775 refuges? Ils ferment? Ils euthanasient en masse? Ou ils donnent en fourrière? Ils donnent à d'autres associations qui seront complètes elles aussi? Donc, il y a une urgence là pour pas qu'on fasse vivre à ces animaux et qu'on vive, nous, moralement, une horreur.
Alors, c'est Annie Dupéré, qu'il faudrait 15 millions d'euros, et vous disiez un peu plus tôt que 15 millions d'euros, en gros, c'était les recettes fiscales que rapportaient tous les refuges,
absolument,
et toutes les associations. Donc, une simple exonération de TVA pourrait faire l'affaire, non?
Ça pourrait faire l'affaire, mais sauf qu'il faut une aide pour le moment.
Concrète, immédiate.
Il faut une aide active pour continuer à travailler. C'est ça le truc. C'est pas seulement enlever les charges sociales sur l'année prochaine, ce qui aidera pas pour cette année.
Le paradoxe, en plus, c'est que en période de confinement, il y a eu de plus en plus de demandes, d'ailleurs, pour avoir des animaux de compagnie auprès des refuges. Donc, on voit bien l'utilité sociale, psychologique de la présence d'un être vivant à ses côtés, et on voit bien
En espérant que les gens qui ne se sont pas sentis un peu tout seuls pendant le confinement prennent un animal et le lâchent pas après.
Bien sûr.
Parce qu'il y a ça aussi, on offre un truc aux gosses à Noël, on s'offre un truc pour le confinement et puis on le laisse dans la nature après.
Bien sûr.
Ça peut arriver, ça aussi.
Est-ce que, je vous pose la question, je ne sais pas si vous connaissez la réponse, est-ce que la France est un pays, entre guillemets, mal noté dans son rapport au genre animal par rapport aux autres pays européens, par exemple?
Alors, je ne saurais pas l'affirmer, mais j'ai lu quelque part que nous détenions un triste record d'abandon d'animaux. Dans l'Europe, au moins.
C'est quand même étonnant. Oui, c'est dingue, parce que ça viendrait de quoi? C'est un problème d'éducation? C'est dans notre...
Je sais pas.
Ce que l'on inculque à nos enfants?
Il y a plein de choses comme ça. Il faut, c'est vrai qu'on parle toujours d'éduquer les enfants, déjà à l'école, à l'empathie avec les animaux, à les comprendre, à les connaître mieux, à savoir qu'ils ont une sensibilité, qu'ils ont ceci. Moi, je ne peux pas m'imaginer dans la peau des parents qui offrent un animal à Noël pour les enfants et qui devant ces mêmes enfants, l'abandonnent pour l'été. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des mômes?
On va paraphraser la phrase de Lamartine qui disait « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux, un pour les humains, on a un cœur ou on n'en a pas
». Voilà. Moi, les animaux abandonnés pour l'été, c'est une question que je me pose. Je voudrais avoir les ressentis des enfants par rapport à ce que font leurs parents. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils pensent que c'est normal? Est-ce qu'ils s'accrochent à leur chien qu'ils ont commencé à aimer avant qu'on le foute en l'air en forêt? Je sais pas, c'est hallucinant, quoi.
Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on a abandonné ma grand-mère en forêt de Rambouillet, j'ai beaucoup pleuré. Hein.
Oui, c'est vrai. Ça m'étonne pas de toi, Daniel.
Quel idiot. Albert Algout, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais dire que la compassion pour les animaux, souvent on dit « Ah oui, vous occupez des animaux, mais vous vous occupez pas, vous souciez pas des personnes en détresse. » C'est absolument pas
c'est
incompatible,
non,
en général.
Ouais,
les gens qui ont de la compassion pour les animaux...
Ça va même assez ensemble, à mon avis.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais juste dire une chose, parce que vous avez dit que vous étiez une pétitionnaire. Vous avez signé récemment une tribune pour que les pouvoirs publics n'oublient pas, par exemple, les professionnels du médico-social qui s'occupent des personnes handicapées, et notamment des handicapés mentaux. Et vous l'avez signé il y a quelques jours encore. Donc, c'est pas incompatible, voyez-vous.
Non,
et vous
bien en êtes sûr la que preuve. C'est pas incompatible. Non. C'est soigner ce qui est faible. On doit soutenir tous ceux qui sont faibles et vulnérables, quoi.
Oui. Et vous êtes, on va le rappeler aussi, mais nous le savons, et vous êtes la marraine depuis une trentaine d'années d'SOS Village d'Enfants, cette ONG qui protège l'enfance, qui accueille également les enfants en détresse.
Qui accueille les élèves, hein, les prend, en prend soin dans des villages, dans des maisons où ils ont leur chambre, et sont élevés avec les frères et sœurs. La raison première d'SOS Village d'Enfants, c'est de ne pas séparer les fratries. Quand elles doivent être placées, maintenant c'est vrai que c'est beaucoup moins des orphelins, c'est beaucoup des situations où on retire les enfants aux parents à cause de grande précarité ou de maltraitance. Donc ce sont des enfants effectivement fragiles et on ne sépare en aucun cas les frères et sœurs.
Et il y a tout un programme. C'est pas uniquement dans l'accueil, mais c'est aussi dans l'épanouissement, notamment par le sport, d'écouter aussi la parole des jeunes accueillis, d'échanger avec eux et puis de les former pour qu'ils puissent.
Mais ils sont carrément élevés dans des maisons avec ce qu'on appelle une mère SOS, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui leur consacre leur vie à les élever, quoi. Et c'est à la fois un métier et un sacerdoce, être mère SOS. Parce que, effectivement, comme ces enfants ont encore des parents avec lesquels ils gardent des rapports, quand même, on sauvegarde les rapports avec les parents, cette mère SOS, cette femme qui s'occupe de ces enfants, elle est comme un tuteur, quelque part, qui s'occupe d'eux. Si les petits ont envie de l'appeler maman, ils l'appellent maman. Mais sinon, c'est une femme qui est là pour les éduquer, les aider à grandir.
Et il faut dire que l'action de...
Ça ne s'arrête pas là, puisque il y a en ce moment aussi... alors, effectivement, il faut donner pour les animaux, mais il faut donner pour SOS Village aussi, parce qu'on ne les lâche pas dans la nature à 18 ans. Je veux dire, après, il faut s'occuper du passage dans la vie d'adulte, de les aider à trouver un boulot, de les accompagner, de les loger dans un studio. Enfin, tout ça continue après 18 ans, évidemment.
Alors, justement, si vous voulez faire un don à SOS Village d'Enfants, l'adresse est SOSVE comme village d'enfants. Donc, SOSVE, il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret.
SOSVE.org.
.org, exactement, pour le site internet. Vous avez adressé cette lettre au président de la République le 26 mai dernier. Avez-vous eu une réponse? Avez-vous eu un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a eu comme écho, à part la communication faite dans les médias?
Non, aucune réponse. Aucune réponse.
Mais si vous, pardon Annie Dupéré, mais si vous appelez le standard de l'Élysée, si vous dites je suis Annie Dupéré, je voudrais parler au président de la République, on vous le passe quand même?
Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas essayé. Tu as essayé?
Non, mais
ses entrées directes.
Vous voulez qu'on le fasse maintenant ensemble? On va l'appeler en direct. Non, mais c'est de se demander. Alors, je sais bien que c'est dans l'air du temps de réclamer comme si c'était un puissant fond comme ça des aides dans tous les sens. Mais on a entendu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les aides faites au cirque et aux zoos et on ne jette pas la pierre sur cette aide, même si les conditions d'hébergement de certains zoos et de traitement dans certains cirques sont précaires. Question. C'est encore une autre question, mais en tout cas, il y avait peut-être un premier geste à faire vers ces associations qui, ne font que faire du bien et ne font que recueillir ces animaux abandonnés. Mmh. Et encore une fois, qui sont des êtres vivants, doués de sensibilité et qui nous apportent tant. Quand on les aime, c'est impossible de les laisser partir à l'agonie comme ça. Et heureusement que le tissu associatif en France est extrêmement fort et très présent. Nous allons évoquer justement la période particulière de confinement. Annie Dupéré, comment vous avez vécu ces 55 jours et qu'est-ce que vous avez retenu de ces 55 jours de confinement ?
Alors c'est très étrange parce que le fait d'être obligé de se restreindre, de ne plus travailler, j'ai cru à un moment, je me suis dit bon, un grand temps libre, moi qui écris aussi par ailleurs, je me suis dit bon, c'est formidable, j'avais un roman en cours, je vais le continuer. J'ai été incapable d'écrire, j'ai été incapable de lire même, sauf là, je vais faire un petit salut là, parce que la meilleure chose que j'ai faite au début de ce confinement, c'est une chose que je me promettais depuis longtemps que j'ai fait, c'est de m'abonner à Charlie Hebdo. C'est génial. Voilà. Donc j'ai lu Charlie Hebdo de fond en comble, y compris les lettres, les newsletters quotidiennes, et c'est la seule chose que je suis arrivée à lire. Alors donc il y avait, c'est très curieux le fait d'être obligé tout à coup d'avoir un temps libre, puisque moi j'avais pas de petits enfants à faire la classe, heureusement d'ailleurs, mais vu mes résultats scolaires, heureusement, mais mon Dieu, mais ils ont échappé à quelque chose, mais je crois avoir compris un tout petit peu un sentiment que je croyais jamais éprouver de ma vie, qui ressemble à l'ennui.
Le temps n'avait plus la même dimension.
Tout à coup, on a du temps libre, on est incapable d'en rien faire parce qu'on attend. On est en espèce d'attente comme ça. C'était assez désagréable en fait.
Alors justement, tiens, on va évoquer aussi ce que vous écoutiez comme musique dans les années 60.
Oui, quand j'étais si heureuse à l'école, oui.
Ben oui. En tout cas aux Beaux-Arts.
Aux Beaux-Arts, oui.
C'est Elvis Presley, Can't Help Falling in Love With You, qui vous accompagnait au Beaux-Arts de Rouen.
Qu'est-ce que j'ai dû flirter là-dessus, oh là là. Oh là là.
Mais non, on était bien à l'époque, Annie. Hein.
Oh là là. Oui, les Beaux-Arts, un grand bonheur après avoir été extrêmement malheureuse à l'école. Effectivement, quand je suis rentrée à ces Beaux-Arts de Rouen, qui était à l'époque dans un monument extraordinaire qui s'appelle Lettres Saint-Maclou, qui est un cloître du XIIIe siècle. Donc c'était un lieu magique. et puis c'était tout à coup, je découvrais que c'était une école. On ne s'asseyait pas pour apprendre la théorie. On était tout de suite debout à faire. Et ça, pour moi, c'était un éblouissement.
Alors justement, vous êtes effrayé par la solitude de la peinture. Est-ce que... On va peut-être baisser la musique un tout petit peu, c'est une espèce de montée d'Elvis. Est-ce que la solitude et la peinture sont deux choses qui vont ensemble? Est-ce que vous avez redécouvert la peinture pendant le confinement?
Non, j'ai pas, alors ça non plus, voilà, je me suis dit, voilà, une chose que je n'arrive pas à faire depuis je sais pas combien de temps, remettre vraiment à la peinture. Eh ben, j'en ai pas été capable non plus.
D'accord.
Parce que, effectivement, se mettre à la peinture exige une certaine joie intérieure.
D'accord.
Elle était absente à cause de l'inquiétude, à cause de ce confinement forcé comme ça. On n'était pas libre et ça n'allait pas malheureusement avec le donc j'ai rien foutu quoi. Si la couture. J'ai fait des masques à la chaîne pour tous mes copains. J'en ai assorti à toutes mes tenues parce que petite fille de couturière, je fais quasiment tous mes vêtements,
c'est
du moins
chic.
Mes vêtements d'été. Donc j'ai assorti des tas de masques. J'ai essayé de faire rire dans la rue en mettant un ensemble entièrement que j'avais fait moi-même avec le masque assorti. Alors j'ai quand même arrivé à faire rire 2-3 personnes, mais j'ai constaté que c'était vraiment très très dur. Bon, je pouvais mettre un nez rouge dessus si vous voulez, mais bon.
Pour en revenir à votre adolescence, vous découvrez et la peinture
et la comédie en même temps,
et vous choisissez votre pseudonyme d'une manière assez particulière au sein de la famille de votre, c'est votre grand-mère, je crois, où vous allez chercher
mon grand-père,
le pseudonyme.
C'est mon grand-père qui n'était d'ailleurs nullement mon grand-père parce que c'était le dernier mari de ma grand-mère, mais c'est le seul que j'ai connu, qui était un homme délicieux. Qui jouait de la mandoline, qui jouait du violon, qui était très humain et très artiste comme ça. Et en fait, j'ai pris un pseudonyme parce que je m'appelais Legras, mon vrai nom c'est Legras. J'ai joué tout de suite, dès que je suis rentrée au conservatoire à Paris, j'ai été engagée pour jouer une pièce. Or, à l'époque, au conservatoire, on n'avait pas le droit de jouer sous son nom d'élève.
Ah bon ?
Parce qu'il fallait une dérogation pour être professionnel.
D'accord.
Il fallait une dérogation, une autorisation pour travailler, et on ne pouvait pas le faire sous son nom d'élève. Il fallait absolument prendre un pseudonyme. Voilà. Et après être passé par tous les noms d'oiseaux, je suis tombée sur le nom de mon grand-père, dont un psychanalyste d'ailleurs m'a fait une réflexion. Il m'a dit, vous étiez orpheline, vous avez perdu votre père, vous avez choisi un nom qui était Annie du père est.
Ah, d'accord.
C'est beau,
ouais.
Hein.
Ouais, ouais, c'est joli. Ouais. Très joli. 1976, Annie, vous écoutiez.
Oh mon Dieu, quelle voix!
Queen, comme dirait Guillermo. Et vous jouez en 76 dans Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert. On ne peut pas s'empêcher évidemment d'avoir une pensée émue pour Guy Bedos, avec qui vous partagez.
Et pour
Jean-Loup Dabadie,
et
absolument, qui a fait des dialogues.
Vraiment, vraiment, moi j'ai une pensée émue pour Marthe Villalonga et pour Claude Brasseur, qui sont les seuls qui restent avec moi de cette grande aventure. C'est vraiment fou, on en a plus, il y en a plus beaucoup des vieux copains là.
Ouais. Quel souvenir vous avez?
Christophe Bourseiller aussi.
Exact. Christophe Bourseiller était présent aussi dans le.
Oui,
aussi,
oui, bien sûr.
Absolument.
Lui aussi, il est parti trop vite.
Non, arrête, petite bêtise. En fait, vous vous êtes retrouvé un peu quoi, par hasard dans le film? Comment vous êtes retrouvé dans Un éléphant, ça trompe énormément?
Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que Yves Robert avait produit un film avec Pierre Richard qui s'appelait Les Malheurs d'Alfred.
Ouais.
Voilà. Et donc on était restés un peu amis comme ça. Et un jour je jouais au théâtre, je sais plus quelle pièce, et j'ai vu débarquer dans ma loge à la fin de la représentation Dabadie et Yves Robert. Voilà. Qui m'ont tenu ce discours. Ils m'ont dit: Annie, on sait que tu en as marre des rôles de grande, belle, jeune femme, que tu cherches le contre-emploi pour créer une surprise, tu voudrais jouer des rôles très différents, etc. Excuse-nous, on va te proposer exactement le contraire. Voilà. Et le soir même, je m'en souviens très bien. Le soir même, j'ai commencé à lire ce scénario. J'avais lu la scène du début, qui vient de moi d'ailleurs. Qui vient de moi, parce qu'un jour on avait très froid dans Les Malheurs d'Alfred, on se suicidait dans une eau à 14 degrés avec une scène dans l'eau, enfin on avait tellement froid qu'ils ont mis de la musique, je me suis mis à danser autour de la pièce et tous les mecs étaient restés bouche bée parce que j'étais là les jambes par-dessus la tête à faire un cancan et freiner. Et qu'ils s'attendaient pas à ça du tout de moi, et ils ont repensé à ça quand ils cherchaient quelque chose pour le début du film. Ouais. Donc je suis très fière en fait d'être à l'origine
de les avoir
envoûtés du cinéma.
Mais évidemment, évidemment, et de les avoir tous envoûtés. Annie Dupéré, appelons un chat quand même. Faut dire les choses.
Ce scénario, quand je l'ai lu au quart de la lecture, je me suis dit: je lis un petit chef-d'œuvre. Alors même s'il y a que cette première scène qui vient de moi, même que cette première scène, je veux être dedans parce que c'est un chef-d'œuvre.
Alors parlons, on a une minute pour parler de l'avenir maintenant, de ce qui se prépare, de cette sortie de confinement, de retrouver peut-être les planches, que sais-je, à la rentrée de septembre. De quoi avez-vous envie? Quels sont vos projets?
Déjà je vais recommencer à tourner un petit peu parce que j'étais dans une série qui a été arrêtée comme toutes les séries. Et puis une autre qui a été arrêtée même avant de commencer. Donc je vais avoir quelques jours de tournage qui vont être dans des conditions que, comme vous savez, assez comiques. Il faut mieux le prendre du côté drôle. On va être enfermé dans notre loge, on est interdit de cantine.
Voilà, mais est-ce que vous avez fini le tournage de Grand Hôtel avec...
Non, justement. Je reviens à Paris cette semaine justement pour continuer les jours qui me restent. Mais moi, je pense surtout au théâtre. J'ai deux projets de théâtre là qui me tiennent à cœur vraiment. Et moi, j'ai une grande pensée pour tous les gens de théâtre et les directeurs de théâtre et les producteurs de théâtre. Je veux dire, ça va être terrible parce que rouvrir les théâtres avec un fauteuil sur trois occupé, franchement, je n'y crois pas. C'est pas la vocation du théâtre. La vocation du théâtre, c'est le partage, la communion. La communion avec 3 mètres entre chaque personne, c'est pas possible.
Bien sûr.
Donc, moi, j'ai vraiment une inquiétude pour notre métier du théâtre.
Non, mais voilà. on peut aussi imaginer que les choses vont de mieux en mieux. Il y a clairement
Il va y avoir
cette prudence qui va faire attendre l'automne et le rafraîchissement des températures, à savoir si ce virus vraiment nous fout la paix complètement ou est-ce qu'il revient saisonnièrement avec le froid. C'est ça, à mon avis, on ne va pas être tranquille avant ça.
Est-ce que parmi vos projets au théâtre, vous allez retrouver Sarah, votre talentueuse fille sur scène, comme vous aviez déjà partagé la scène avec elle?
Sarah mène sa barque, elle mène sa carrière, oui. On a joué ensemble, c'était extrêmement agréable.
Colombe, de Jean Anouilh.
Oui, Colombe, Colombe, avec 10 autres acteurs. On était une troupe, je disais, nos rapports de tendresse mère-fille se sont trouvés complètement noyés dans une troupe de bisounours. Qui n'arrêtait pas de s'embrasser.
Et puis, il faut pas oublier Gaël aussi, votre fils, qui est également comédien.
Voilà, qui est également comédien, avec lequel j'ai pas joué, lui, effectivement. Mais voilà, tout le monde attend de retravailler.
Voilà, on le souhaite.
Une famille de comédiens et d'artistes, voilà.
Merci mille fois, Annie Dupéré, d'avoir trouvé le temps d'être avec nous. Je rappelle d'abord...
On a encore tout le temps, hein.
SOS. Je rappelle SOS Village d'enfants. Si vous voulez faire le moindre don et encore une fois le moindre centime à son importance, sosve.org pour faire les dons. Et puis encore une fois cette lettre et les associations de Ethic for Animals ou One Voice qui ainsi que le collectif Chat 100% sérisation obligatoire et l'Arche des associations ont écrit toutes ces associations au président de la République et aux différents ministres pour leur dire qu'il fallait que nous soyons vigilants sur le traitement de nos égaux, que sont les animaux, voilà, qui sont
Absolument.
Des êtres vivants
Sinon
comme
on
nous.
On aura honte et ça sera Absolument. Pas bon pour notre morale. Voilà.
Merci mille fois, Annie Dupéré, on vous embrasse.
J'en profite pour dire que je fais un bisou à Tanguy Pastoureau, que je ne connais pas et dont je suis absolument fan, à l'égal de Daniel Morin, bien sûr.
Non, mais Tanguy, c'est autre chose. Bah, dis quelque chose, Tanguy, écoute, reste pas comme ça.
Je suis très gêné, je m'attendais pas à ça, je sais pas quoi répondre.
Eh ben oui, mais je comprends.
Tu me racontes qui se fait ce matin, voilà. Un moment de vie.
Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et c'était sur Inter à 11h52. On vous embrasse fort. Ciao, Annie, bonne journée.
Au revoir, Annie.
Bonne journée à tous.
Au revoir.
Sur France Inter.
Voici un groupe qui s'appelle Grand Funk. Il porte mal son nom parce que c'est plutôt rock. Funk avec ce titre We Are an American Band. Et voici Monsieur Tanguy Pastureau. Tanguy, les statues, selon vous, ça ne sert à rien à part la vôtre, j'imagine.
Mais non, déjà, ça rend pas hommage à la personne, hein, parce que les pigeons défèquent dessus. Enfin, Molière qui s'est cogné l'écriture de 33 pièces de théâtre pour qu'au final sa statue soit l'équivalent chez les pigeons des toilettes sèches de Nicolas Hulot chez nous, ça avait le coup de se fouler. Et puis, le souci d'une statue, c'est que ça honore une personne X à un moment M, et ça fait trop de consonnes. Or, l'histoire n'est pas figée. Le héros d'hier peut devenir le salaud d'aujourd'hui. Regardez Pétain. En 1918, c'était une star. Tout le monde voulait lui ressembler. On injectait des hormones aux gosses pour qu'ils aient la moustache qui pousse. À 4 ans, les petits avaient la voix de François Baroin. Et en 44, bon, tout le monde lui ressemblait parce qu'il était devenu antisémite. Mais entre-temps, il avait perdu son image de héros. Et alors, il y a deux jours, à Bristol, en Angleterre, hein, le pays où les reines, conservées dans une atmosphère à 100% d'humidité, comme les cornichons dans leur bocal, vivent 100 ans, des manifestants antiracistes ont déboulonné une statue datant de 1895. Donc d'abord, on s'est dit, diantre, par la mini-vague de Stephen Byrne, c'est l'histoire qu'on assassine. Puis on a appris que cette statue représentait Edward Colston, esclavagiste notoire, ce qui en 1895 ne posait de problème à personne. Même Gérard Collomb était concentré à l'époque sur ses révisions du brevet. L'esclavage, ça passait. Vous alliez au marché acheter des poireaux, reveniez à la maison avec quelqu'un, votre femme vous disait, ah ben non mon chéri, tu as encore pris un monsieur, mais on n'a pas encore remboursé le crédit pour les deux autres. En 2020, ça paraît délirant, mais en 1895, Colston était une belle personne, notamment parce qu'avec le brosouf de la traite des Noirs, il a construit la moitié de Bristol, donc statue. Dès que quelqu'un fait un truc bien pour un lieu donné, on lui fait une statue. Pour ses 40 ans de chronique à l'antenne de France Inter en janvier, on érigera face à la Seine une statue de Daniel Morin, évidemment, qu'on déboulonnera dans un demi-siècle. Quand Lina aura ressorti un vieux sketch de lui se moquant des Chinois, ça fera scandale. Le fils de Xi Jinping, Y Jinping, exigera des excuses de la France, ce que fera Michel Drucker, seul Français à avoir survécu aux 300 virus libérés par la fonte des glaces, au pôle Nord. Bref, les statues sont figées, mais ce qu'elles provoquent en nous ne l'est pas. Si je suis noir, et qu'en Virginie, dans le parc où mes enfants jouent, trône la statue d'un général sudiste, ces gens qui portaient des boucs et étaient pour l'esclavage, ce qui n'a aucune corrélation, hein, que personne ne s'en prenne à Serge Lama. Bien sûr, j'aurais la rage. En France, certains veulent même qu'on retire les statues de Colbert, ministre de Louis XIV, un mec poudré qui a créé le look d'Amélie Nothomb et qui a rédigé le code noir sur l'esclavage. Sur Twitter, depuis deux jours, tout le monde s'écharpe sur le sujet, ce qui fait qu'il y a exactement la même ambiance que d'habitude. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de statue de personnes gentilles, Philippe Delerme, Yolande Moreau, Pifou. Non, n'ont droit à leur statue que des maréchaux, donc des criminels de guerre pour certains, des chefs d'État, donc des menteurs qui ont mené leur pays au désastre pour certains, ou des écrivains sur les œuvres desquels on s'est pété les dents au bac, donc des salauds. Le créateur de télépoche bien plus accessible n'a pas eu droit à sa statue, lui. Alors tout ça pour vous dire que ça va devenir lassant de monter des statues qu'on détruit plus tard, parce que notre perception des personnages de l'histoire évolue, donc interdisons les statues, on mettra juste le socle, hein, parce que les professionnels du socle n'y sont pour rien, eux, et un petit napperon dessus, hein, c'est joli un napperon.
Merci Tanguy Passereau. Des excuses, Daniel Morin. Vite.
Oui, alors juste un sorry, mais quel sorry. Désolé pour l'esprit des Lumières, la France des idées, l'histoire de France et celle de France Inter qui transpire dans toutes les émissions de cette grande chaîne culturellement exigeante. Ce matin, tout s'est cassé la gueule en juste quelques secondes. Quelques toutes petites secondes.
Que voici.
J'attendais la chatte à la voisine, mais la chatte à la voisine n'est pas arrivée. En même temps, c'est dommage. Parce que... Cette chanson géniale. En plus, elle parle d'amour et d'animaux, et ça, c'est très beau.
Merci Daniel Morin. Oui, de plates excuses, on va dire. Merci Marina Rollman, Agnès Hurstel, Tanguy Pastureau, Albert Algou, Daniel. Demain, c'est Claude Lelouch qui sera notre invité dans la bande originale.